La capitale de la Lyonnaise 4e, qui s'appellera plus tard la Lyonnaise Sénonaise, c'est la ville de Sens. Et pendant très longtemps, Paris ne sera d'ailleurs qu'un modeste évêché de l'archevêché de Sens, héritage de cette organisation romaine de l'espace. Paris a été magnifié par une présence impériale, une seule. L'empereur Julien l'Apostat y passe l'hiver 357-358. De son séjour à Paris, Julien l'Apostat garde le souvenir de la beauté de la Seine et de la douceur de l'eau de la Seine qu'il buvait tous les jours. Ce qui laisse à penser qu'il n'y est peut-être pas resté très longtemps. Il a vu également passer des glaçons sur la Seine, événement quand même relativement rare, et puis c'est à peu près tout. La ville de Paris est en fait, comme toute la plupart, ou du moins la plupart des cités de la Gaule tardive, une cité en cours de rétraction depuis la fin du IIIe siècle et surtout au IVe siècle, contraction de l'espace urbain autour d'un noyau fortifié, qui est l'île de la Cité, et peut-être de l'ancien forum qui se trouve à l'emplacement de la rue Soufflot, qui semble avoir connu une phase de fortification. Peu de choses, à vrai dire, donc une cité tardive avec son patrimoine, son grand patrimoine, les amphithéâtres, les thermes en cours d'abandon depuis le IIIe siècle, pas à cause des barbares, mais à cause de la crise économique du IIIe siècle qui amène à abandonner les édifices de prestige, et une cité qui ressemble à beaucoup de ces cités de la Gaule du Nord, avec la fortification qui marque l'espace et qui ici scande l'île de la Cité. Que dire d'autre ? Il y a un évêque, on est dans une ville chrétienne, il n'y a pas de doute à avoir, à partir sans doute des années 350, premier évêque est signalé sur une fausse liste épiscopale, ce qui n'est jamais très prestigieux. Mais enfin, même si c'est un faux évêque, ça veut dire que vraisemblablement il y en a un. Et ces évêques qui se maintiennent pendant toute l'époque qui nous intéresse. Par contre, écartons tout de suite l'idée d'une importance stratégique particulière de Paris. Même si Julien l'Apostat y a passé un hiver, même si l'empereur Valentinien Ier y a peut-être passé une semaine, on ne peut pas parler véritablement de capitale des Gaules. C'est une ville très loin de la frontière, très loin également des lieux riches qui se situent au sud, de cette Aquitaine, de cette Auvergne, de la vallée du Rhône qui concentre encore des ressources fiscales importantes. Nous sommes dans une cité secondaire. Alors certes, nous sommes au carrefour de voies, m'expliquaient les géographes, il y a la voie routière et la voie fluviale, mais il y a beaucoup d'autres cités qui possèdent ces caractères et sans doute des cités infiniment plus prestigieuses et plus intéressantes pour le pouvoir romain. Donc une cité extrêmement modeste qui va devoir sa promotion urbaine à une série de personnalités dynamiques. Ces personnalités, c'est Sainte-Geneviève au 5e siècle, Clovis au tournant du 5e et du 6e siècle, et surtout et avant tout, les gens que nous avons appris à oublier, les rois mérovingiens de Paris, les rois des 6e, 7e siècle, qui, eux, vont fonder véritablement quelque chose qui ressemble à une ville capitale. Alors commençons peut-être par Geneviève. Geneviève a la chance d'être connue par une vie de saint qui, elle, a perdu sa préface, malheureusement, mais enfin, on suppose qu'il y en avait une. Vie de saint, difficile à dater, mais disons des environs des années 520, donc une vie de saint relativement précoce, écrite une quinzaine ou une vingtaine d'années après la mort de Geneviève. Geneviève, donc, qui reste dans la mémoire comme la patronne de Paris, est née en dehors de Paris. Elle est née à Nanterre, c'est pas très loin, vous allez me dire. C'est un vicus de la cité de Paris, donc une agglomération secondaire. Elle naît vraisemblablement dans les années 420. Même si on s'est complu à la représenter comme une bergère, elle est issue d'un niveau social très élevé. Vraisemblablement, elle appartient au groupe des curiales, c'est-à-dire des gens qui administrent la cité de Paris, qui font fonctionner la curie, c'est-à-dire le conseil municipal. Son nom est original, Genovefa. C'est un nom germanique, ce qui laisse supposer que Geneviève est issue d'un mariage mixte, ou peut-être la petite-fille d'un mariage mixte. En tout cas, elle laisse supposer qu'on est dans un moment de présence de gens qui sont issus d'une autre culture et d'une autre tradition linguistique dans la Gaule. Ce n'est pas véritablement surprenant, puisque lorsque Geneviève naît en 420, l'Empire romain ne ressemble déjà plus du tout à l'Empire romain de l'époque flavienne ou de ce grande époque dont vous parlera bientôt François Chausson, où Paris avait connu une vie municipale comparable à toutes les cités du monde méditerranéen. Au moment où Geneviève naît, l'Empire est déjà fractionné entre deux entités et un empire d'Occident se maintient, il va se maintenir pendant un siècle, sous la domination d'une dynastie qu'on appelle les Théodosiens ou les Valentiniens, puisque Geneviève est jeune à l'époque où l'empereur s'appelle Valentinien III. À vrai dire, celui qui contrôle l'Empire n'est pas Valentinien III. Celui qui contrôle l'Empire est déjà le chef de l'armée romaine. L'empereur n'est guère déjà au 5e siècle qu'un fantoche, et le véritable maître du territoire romain d'Occident est celui qui dirige l'armée. Le patrice Aetius, qui dirige l'armée pendant une quarantaine d'années, n'est pas un personnage indifférent pour nous. C'est quelqu'un qui déjà est romano-barbare. Les élites gouvernant l'Empire d'Occident, mais ça serait vrai également pour l'Empire d'Orient, ne sont plus des élites romaines. Ce sont des élites issues de mariages mixtes. Depuis très longtemps, la fusion est opérée au début du 5e siècle. C'est quelqu'un qui a certes des postes dans la hiérarchie romaine et qui va administrer le territoire. On n'est pas certain qu'il soit jamais passé par Paris, mais en tout cas qui circule dans l'espace gaulois. C'est quelqu'un qui travaille avec les barbares également. Quelqu'un qui a dans son armée un groupe, une task force qui est composée essentiellement de un qui va lutter pendant toute sa vie contre Attila, mais qui en même temps a comme soldats les plus fidèles de son état-major un groupe de 1. C'est quelqu'un également qui va installer des barbares dans les Gaules. La grande politique d'Aetius, c'est de comprendre que le fonctionnement de l'Empire traditionnel ne peut plus continuer au 5e siècle. En Orient, l'Empire romain continue de maintenir l'idée d'une frontière nette, où on installe l'armée et l'État romain se bat sur la frontière contre les barbares. En Occident, c'est devenu bien difficile parce que depuis 419, les impôts sont en baisse. S'il y a moins de contribuables, il y a moins de ressources fiscales et donc beaucoup moins de capacité à mobiliser des soldats et à maintenir ce que l'Empire romain voulait, c'est-à-dire un limes, une frontière nette séparant les barbares du monde romain. Aetius va donc développer un système nouveau. C'est d'abord augmenter les impôts, sans grand résultat, hein. Ça crée des révoltes fiscales. Ne cherchez pas à mal voir, mais c'est vrai que j'ai mis un peu en jaune la révolte fiscale. On les appelle les bagodes, c'est le terme qui a donné bagade hein, en breton actuel, donc les bandes, des bandes désorganisées qui ravagent certainement le territoire gaulois en refusant de payer les impôts. Et Paris est vraisemblablement dans la grande zone des bagades ou des bagodes entre les années 420 et 450. Donc, faire monter le prix des impôts n'est pas une réussite. La solution choisie par Aetius, c'est plutôt d'installer des barbares sur la frontière. Ces barbares qu'on appelle des fédérés, qui vont se battre contre les autres barbares, jugés beaucoup plus dangereux. Alors, évidemment, ça passe par une cession de territoire. On remet des provinces aux barbares, et en échange, on espère que ces barbares fédérés vont rendre un service. Si on regarde la situation de Paris et de la Gaule dans les années 430-450, quand Geneviève est adolescente et jeune, disons que Paris est certainement à la frontière de cette zone de révolte fiscale et la frontière de notre monde, puisque l'armée impériale n'est plus là, elle s'est repliée vers la Provence. En Gaule, vous avez des agents impériaux, mais des agents impériaux qui sont des barbares fédérés. La Gaule du Nord est occupée par des Francs, occupée légalement, c'est un régime de fédération. La Savoie et la région de Lyon par des Burgondes. Du côté de Valence, vous trouverez des Alains. Et toute l'Aquitaine a reçu un peuplement visigoth chargé de garder ce territoire contre les autres barbares jugés dangereux, notamment les Vandales et les Suèves. Autant dire que dans le monde de Geneviève, le barbare n'est pas du tout une nouveauté. C'est à la fois une menace, un voisin et un parent. C'est souvent quelqu'un avec qui les relations sont déjà naturelles depuis une à deux générations et Geneviève a vraisemblablement elle-même des ancêtres qui viennent de loin. Donc, un monde sans doute romano-barbare à Paris, Geneviève est chrétienne comme toutes les élites occidentales. Les élites sénatoriales et les élites curiales sont passées dans le camp du christianisme au plus tard dans les années 400. Donc il n'y a pas de surprise à voir une Geneviève chrétienne, ni une surprise véritablement à voir Geneviève faire le choix de la consécration des Vierges. La consécration des Vierges est un choix qu'elle fait vers une quinzaine d'années, donc ce n'est pas un retrait dans un monastère féminin, les monastères féminins n'existent pas encore à Paris, simplement elle reçoit une bénédiction de l'évêque de Paris, un voile, et désormais elle ne peut plus se marier, ce qu'elle cherche vraisemblablement, et pour des raisons pieuses, et pour des raisons patrimoniales. dans la mesure où, à partir du moment où vous recevez la consécration des vierges, vous gérez totalement vos biens. Donc ici, cette pauvre bergère est sans doute une aristocrate de bon niveau qui, comme beaucoup de femmes du Ve siècle, font le choix de gérer leur propre fortune. On sait que Geneviève va prendre une certaine importance dans les années 440-450, lorsqu'elle est chargée, dans le baptistère de la ville de Paris, d'organiser des veillées de prière pour protéger la ville contre Attila, qui est en campagne en Gaule. Alors ça m'amène à ce troisième acteur du Ve siècle, les barbares occidentaux, l'Empire romain, et puis un troisième acteur important, qui est la Confédération des Huns. Confédération vaste, hein, il y a quelques centaines de Huns, certainement, et énormément de peuples, notamment des Visigoths, des Burgondes, des Ostrogoths, qui sont ralliés à cet empire des steppes. Une vaste confédération qui vit essentiellement de la prédation des ressources fiscales romaines. Attila et ses frères imposent le tribut sur Rome. Or, il se trouve qu'Attila a des visées sur les Gaules. On sait que dans les années 440, Attila accorde son soutien aux révoltés fiscaux de Gaule centrale, sans doute avec l'idée qu'il y aurait peut-être des interventions à faire dans la région. Et puis, en 450, se déroule la terrible affaire Honoria. L'empereur Valentinien III a de nombreux défauts, le pire est d'avoir une sœur. Honoria, qui depuis une vingtaine d'années, c'est pas une jeunette, hein, elle a 35-40 ans, tente de faire un bon mariage et d'obtenir du pouvoir au sein de l'Empire. On l'a remariée deux fois, la deuxième fois avec un sénateur très âgé pour essayer de s'en débarrasser, mais Honoria aurait envoyé son anneau à Attila en lui promettant de l'épouser si jamais on venait la délivrer. Et Attila prend ce prétexte pour essayer effectivement de saisir des terres dans l'Empire, de devenir l'époux d'Honoria et donc de recevoir une partie de l'Empire d'Occident. Alors, son intervention est d'abord diplomatique. Comme on lui refuse la main de cette princesse impériale, l'intervention devient beaucoup plus pratique et Attila attaque. L'attaque est quand même relativement prudente. Si on observe le cheminement d'Attila dans les Gaules en 451, il évite, disons, tous les peuples fédérés. Il commence par attaquer dans la région de Metz et dévaste la ville. Puis, il fonce vers le bassin parisien, c'est-à-dire qu'il réussit à circuler entre les armées fidèles à l'autorité romaine. À l'approche de Paris, Geneviève est dans la ville et organise les veillées de prière. La vie, mais est-elle fiable, elle est écrite 70 ans après les faits, nous dit qu'une partie des habitants de Paris envisageait d'abandonner leur cité, mais que Geneviève les a traités de lâches, les a obligés à prier, et qu'au dernier moment, Attila s'est détourné de Paris et a préféré piller Orléans plutôt que de piller Paris. Disons qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On est dans un moment épidémique en Occident. Il n'est pas impossible qu'Attila ait eu peur d'une épidémie frappant le bassin parisien, ou éventuellement les Francs étaient en mouvement à ce moment-là, donc éventuellement peur d'une protection de Paris opérée par les Francs. Dans tous les cas, Attila se détourne vers la Gaule du Sud, ce qui laisse le temps aux autorités romaines pour se réorganiser. Le véritable miracle de Geneviève est peut-être moins d'avoir protégé sa ville que d'avoir gagné du temps. Le siège d'Attila à Orléans est long. Au moment où il réussit à briser les murailles d'Orléans, l'armée de secours romaine intervient. Alors, armée de secours romaine avec de nombreux guillemets, dans la mesure où il y a bien peu de Romains dans l'armée de secours romaine, il y a essentiellement des Francs, des Visigoths, des Alains et des Burgondes. D'une certaine façon, dans l'armée d'Attila, il y a également des Francs, des Burgondes, des Alains et des Visigoths. Mais c'est l'armée d'Attila. Donc, cette armée de secours réussit à repousser Attila, qui s'enfuit en Champagne. C'est là qu'a lieu la grande bataille des Champs Cataloniques, la plus grande bataille du Ve siècle, avec l'armée impériale, si tant est qu'on peut l'appeler ainsi, qui combat l'armée des Huns. Le résultat étant le premier ex aequo de l'histoire des grandes rencontres entre Romains et barbares, dans la mesure où personne ne remporte la bataille des Champs Cataloniques. Ça dure deux jours, c'est très violent, le roi des Visigoths meurt quand même sur le terrain, mais visiblement, l'armée impériale n'a aucune envie d'anéantir Attila, et Attila n'est pas prêt à donner toute sa force pour essayer de conquérir les Gaules. Donc on laisse l'armée des Huns s'enfuir, et les Francs, les Visigoths, les Alains, les Burgondes repartent chez eux. Peu de résultats véritablement, sans que l'on sache ce qu'il se passe à Paris, mais lorsque les sources recommencent à apparaître, disons à partir des années 470, la révolte fiscale a disparu. Que s'est-il passé? Les champs cataloniques ont été l'événement permettant aux barbares fédérés, donc les barbares sous contrat romain, de prendre le contrôle des Gaules. Désormais, ils sont là, ils ne bougeront plus. Les Visigoths s'étendent jusqu'à la Loire. Les Burgondes, gobant au passage les Alains, s'emparent de toute la moyenne vallée du Rhône. Et les Francs s'étendent plutôt en Rhénanie, mais peut-être également vers la Picardie. Reste une zone centrale, là où se trouve notre bonne ville de Paris et Geneviève, où il y a l'armée romaine qui se réinstalle. Mais pas vraiment l'armée romaine, c'est une armée romaine, je corrige, dissidente. Dans la mesure où le chef de l'armée romaine installé dans le bassin parisien dans les années 470 est un certain Aegidius, donc général en chef de l'armée des Gaules, magister militum, qui contrôle un espace relativement important, mais qui ne reconnaît pas l'empereur d'Occident. Se trouve alors une armée romaine qui ne dépend d'aucune Rome. Quelque chose d'étrange pour nous, d'autant plus que ce général, alors qu'il est officiellement fonctionnaire, transmet le pouvoir à son fils, comme le ferait un empereur. Et le fils d'Aegidius, Siagrius, reçoit le contrôle de cet espace. Siagrius a du mal à se définir. Officiellement, il est maître de l'armée, donc magister militum, mais quelques sources nous le désignent sous le nom de roi des Romains. Aegidius et son fils Siagrius auraient recomposé un pouvoir comme on n'avait jamais vu en Gaule depuis le IIIe siècle, un pouvoir romain séparé finalement de la péninsule italienne. C'est sans doute dans ce cadre-là que Siagrius prend également le contrôle d'une partie du peuple franc. Certaines sources l'appellent roi des Francs. On est dans une période d'extrême confusion, sans doute, des identités. Sa capitale n'est pas Paris, sa capitale est très vraisemblablement plus au nord, à Soissons, où ils peuvent profiter des arsenaux impériaux qui semblent encore en fonctionnement. Quel est le devenir de Paris? On a très peu de sources, sinon que Geneviève est là, avec vraisemblablement un évêque tellement incertain et doté de si peu de pouvoir qu'on ne connaît même pas le nom et l'identité de cet individu. Ce que l'on sait en revanche, c'est que parmi tous ces gens qui vivent d'une certaine prédation des ressources fiscales des Gaules, il y a un groupe de Francs, celui d'un roi nommé Childéric, qui va s'approcher de Paris. Alors les sources ne sont pas très nettes pour savoir s'il s'approche en ennemi ou en ami, mais en tout cas il s'approche, et il entre en contact avec Geneviève. Alors Childéric, roi des Francs, pour nous est intéressant parce que c'est une encre dans ce monde aussi incertain, pas tellement parce qu'on le connaît en tant que roi, on a deux mentions dans les sources contemporaines, on doit en tout et pour tout se résumer à moins de 45 mots sur Childéric, roi des Francs, mais ce roi qui est un roi des Francs parmi la dizaine de rois que comptent les Francs, sans compter les Romains qui se font appeler roi des Francs, ce roi, on possède une mention dans la vie de Sainte-Geneviève, on dit qu'il libère des prisonniers à la demande de Sainte-Geneviève. Autant dire que c'est un brave homme. Vraisemblablement, les relations sont apaisées avec ce personnage-là. Et puis Childéric meurt en Belgique à Tournai en 481, et par chance, la tombe de Childéric a été retrouvée. Découverte du XVIIe siècle, à l'époque où on baptisait l'hôtel de Lausanne, on retrouvait la tombe de Childéric, et par chance, les Habsbourg travaillaient mieux que les Français, et ont fait une publication scientifique de la découverte, ce qui est une chance parce que les objets ont presque tous disparu au cours du siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme qui a été en contact avec Sainte-Geneviève de Paris? Bien, disons que son identité était sans doute assez mixte, il était couvert de bijoux, ce qui pour nous apparaît très barbare, mais les bijoux ont tous une connotation romaine, notamment la fibule de Childéric, c'est la fibule des généraux en chef de l'Empire romain. Cet homme-là avait des bijoux cloisonnés de grenats représentant des abeilles, les mêmes bijoux que ceux qu'on en trouve à la cour d'Attila à la même époque, mais il avait également une bague sigillaire qui lui permettait sans doute bien de montrer son identité. Il porte le costume militaire romain, la cuirasse, donc il montre que c'est avant tout un homme pour qui la fonction guerrière est primordiale. Il est capable de sceller ses documents, donc vraisemblablement une petite pratique administrative. L'inscription est en latin, il est roi des Francs, mais il est latinophone, même avec un joli génitif, Childerici Regis, donc anneau du roi Childéric. Il porte un torque, un anneau de tradition germanique, mais ma foi, tous les soldats se mettaient à porter cela depuis le IIIe siècle. Et puis, pour nous, il a les cheveux longs, c'est le premier des Mérovingiens, le premier des rois chevelus qui vont diriger la Gaule, qu'on appellera bientôt la France, pendant 3 siècles et demi. Donc un homme qui a vraisemblablement rencontré Geneviève. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre ? Que cet homme, vraisemblablement, ne cherche pas à devenir empereur, à la différence de beaucoup de ses contemporains. Si vous regardez l'apparence de Childéric, l'apparence de l'empereur du moment, Léon II, vraisemblablement, il y a un décalage qui est choisi. Ici, il se présente en officier de l'Empire universel, même si l'Empire est devenu bien lointain pour les gens qui vivent à Paris dans les années 470-480. Childéric, en fait, est un pouvoir parmi la vingtaine de pouvoirs qui se partagent les Gaules. Des Gaules qui sont partagées entre plusieurs royaumes barbares concurrents, mais aussi à l'intérieur de chaque royaume par plusieurs rois concurrents. Donc on a une situation d'anarchie qui doit être complexe, qui nous empêche de préciser à quel royaume Paris appartient. Sans doute au royaume de Siagrius, mais la certitude n'est pas encore établie. Reprenons un peu le cours de la vie de Sainte Geneviève. Donc, elle entretient de bonnes relations avec Childéric. Lorsque Childéric meurt en 581, il laisse le pouvoir à son fils Clovis. Et notre Geneviève aura aussi de bonnes relations avec Clovis. Pas de longues relations, puisque Geneviève meurt en 502. Et cette histoire-là est terminée par un grand enterrement qui nous a permis d'avoir cette vie de saint. Les funérailles de Sainte Geneviève ont certainement été un grand événement à l'échelle des Gaules. On nous dit que jusqu'en Syrie, tout le monde connaissait Sainte Geneviève et que même Saint Siméon, vous savez, le saint en haut de sa colonne, avait entendu parler de Sainte Geneviève et chanter les louanges de Sainte Geneviève. Un certain rayonnement, disons, plus personnel, sans doute qu'urbain. C'est plus une Parisienne que Paris qui a de l'importance à cette époque-là. L'importance de Paris, elle naît en fait avec Clovis. Clovis, on sait que c'est le fils de Childéric, mais surtout, il est associé au baptême. Par rapport à Sainte-Geneviève, la documentation est considérable. C'est-à-dire que pour Sainte-Geneviève, on a une dizaine de pages. Pour Clovis, on atteint la vingtaine de pages de sources. Donc, on connaît un peu mieux ce personnage. Que sait-on ? Bien, disons qu'on l'identifie comme le roi baptisé. Ce n'est pas comme cela que ses contemporains l'identifient. Clovis, pour ses contemporains, c'est avant tout l'héritier de Childéric. Donc, un des 10 rois francs qui gouvernent le nord du royaume. Quelqu'un qui n'est pas du tout basé sur Paris. On a conservé une lettre de Saint-Rémy de Reims au moment de l'avènement de Clovis. Il écrit à Clovis « Vous avez hérité du gouvernement de la Belgique seconde. » Belgique seconde, province romaine, capitale Reims. On n'est pas du tout dans le bassin parisien. Il n'empêche que Clovis va nouer des contacts avec l'ensemble du clergé des Gaules. Vraisemblablement avec Saint-Rémy très tôt, mais également avec Sainte-Geneviève. Donc on sait que ces contacts sont établis. Alors que Clovis est païen, comme son père était païen, mais ça n'empêche pas du tout les bonnes relations. Pensons à Constantin. Constantin est resté non baptisé pendant la quasi-totalité de sa vie. Ça ne l'a pas empêché d'être le premier empereur chrétien. Donc, protecteur du christianisme catholique, ce qui crée sans doute une certaine aura de légitimité supérieure pour Clovis, encore que les sources soient bien minces. La légitimité de Clovis, c'est avant tout la légitimité guerrière. C'est un homme qui va passer les 30 ans de son règne à faire la guerre pour conquérir ou reconquérir la majeure partie des Gaules. Les premières opérations commencent dès les années 486-87 sans doute, avec des opérations de Clovis en Picardie contre le royaume de Siagrius. Et effectivement, Clovis réussit à oblitérer le royaume de Siagrius. Pour l'histoire de France, c'est important, puisque c'est au moment du partage du butin à Soissons, capitale de Siagrius, qu'a lieu l'épisode du vase de Soissons. Vase de Soissons qui est un vase liturgique qui aurait été pillé et que Clovis voulait rendre à son légitime propriétaire. Ce qui montre déjà de bons contacts avec le christianisme, même s'il nous est encore présenté comme un roi païen. Donc, conquête dans cette région-là, c'est peut-être à ce moment-là que les liens se nouent véritablement avec Sainte-Geneviève. Les historiens ont supposé que Sainte-Geneviève aurait peut-être permis à Clovis de rentrer dans Paris et d'annexer Paris sans coup férir, ce qui expliquerait que la vie de Sainte-Geneviève glisse sur cet épisode qui n'est peut-être glorieux pour personne, avec la Sainte Parisienne qui aurait permis aux Francs de prendre le contrôle de la ville. Peut-être, mais très incertain, disons que Clovis devient maître de Paris à une date inconnue entre 486 et 500-505 au maximum. Donc, descente progressive des Francs vers le sud. Et puis, des séries d'opérations qui sont menées par Clovis avant tout vers l'est, contre les Alamans, contre les Burgondes également vers 500, donc un roi batailleur qui vise à reconstituer un certain royaume qui serait pratiquement les Gaules romains. Sans grand succès, ni contre les Alamans dans un premier temps, ni contre les Burgondes, il faut bien l'avouer. La véritable bonne opération de Clovis a lieu en 507 contre le roi des Visigoths Alaric II. Clovis mène des opérations sur la Loire, peut-être à partir d'une base qui serait Paris, mais sans certitude, et en fait mène une opération double. Il demande aux Burgondes d'attaquer en Provence, et pendant que les Visigoths sont occupés en Provence, Clovis attaque sur la Loire, se bat à Vouillé contre Alaric II, roi des Visigoths, tue le roi des Visigoths, s'empare de Toulouse, et part rejoindre ses alliés Burgondes pour assiéger la ville d'Arles. Donc de grandes opérations, mais qui laissent ici, vous le voyez, un peu Clovis loin de Paris, hein, au moment le plus glorieux et le mieux documenté de son règne. À une date incertaine, Clovis épouse une princesse catholique burgonde, Clotilde. Si vous avez envie de voir un baptême de Clovis très tôt dans le règne, il faudrait qu'il l'épouse dans les années 490, même 480 éventuellement. Si vous pensez que le baptême a lieu très tard, il peut l'épouser au moment où il fait alliance avec les Burgondes, ça serait beaucoup plus logique. Ce qui veut dire que le baptême de Clovis, on n'arrivera pas à le situer, puisque toutes les sources nous disent que le baptême de Clovis est une conséquence de son mariage avec Clotilde. Donc Clotilde restera un personnage très nébuleux, on n'en parlera véritablement qu'un siècle plus tard. Clovis se fait baptiser quand même dans le catholicisme, à une date donc impossible à préciser, mais également, soulignons-le, dans un lieu qui est impossible à préciser. La tradition le fixe à Reims, et il y a de bonnes raisons de penser que ça se passe à Reims. La seule chose que l'on sait sur le baptême de Clovis, c'est que l'évêque Rémy de Reims est présent. Donc ça ne veut pas dire que ça se passe à Reims, car il y a beaucoup d'évêques qui sont présents. Mais Rémy de Reims, c'est un personnage affreusement casanier, et on l'imagine mal se déplacer de 300 km, même pour un baptême royal. C'est le seul argument qui soit véritablement en faveur d'une localisation à Reims. Certains ont dit Paris pour le baptême, pourquoi pas, mais là non plus, pas d'éléments. Sur ce baptême, on ne peut pratiquement rien dire, si ce n'est qu'il prélude à un événement plus considérable, et là qui enfin nous fournit des textes, c'est un grand concile que Clovis réunit, mais pas à Paris, à Orléans. En 511, Clovis réunit l'ensemble des évêques des territoires qu'il domine, c'est-à-dire le sud de la Loire, mais également toutes les régions du Nord, grande assemblée de plus d'une trentaine d'évêques, mais là, on est loin de Paris. Pourquoi Paris ? Eh bien, peut-être parce qu'au cours de cette extension du royaume, Clovis va faire un choix, c'est un choix de fondation d'église. Sur la fin de son règne, nous dit-on, il aurait fondé une église sur la tombe de Geneviève. Donc Geneviève est morte en 502, la décision a lieu un peu plus tard. Donc apparaît, autour de 510, les fondations d'une église qui s'appellera les Saints Apôtres de Paris et qui s'appellera bientôt la Basilique Sainte-Geneviève. La basilique sort juste de terre, nous dit-on, à la mort de Clovis en 511. Mais juste avant de mourir, donc éventuellement au cours de l'année 511, Clovis aurait installé sa caput regni, en latin, donc sa capitale, à Paris. Donc quelques mois avant de mourir, un choix qui est lourd de sens, installation du siège du royaume dans une ville où jusque-là, on ne l'avait pratiquement jamais vu. Alors pourquoi ? Vraisemblablement parce qu'il y a une dévotion personnelle à Geneviève, ça semble assez évident. Peut-être également parce qu'il y a un projet de nécropole royale. Clovis a prévu de se faire enterrer ad sanctos, auprès des saints, comme tous les chrétiens le font au cours des 5e et 6e siècles, et que l'enterrement à côté de Sainte Geneviève lui permettrait de gagner le paradis. C'est un choix très tardif, mais c'est un choix qui va avoir une importance considérable pour l'histoire parisienne. Désormais, il y a une tombe royale à Paris, les Saints Apôtres de Paris. Alors les Saints Apôtres de Paris, malheureusement, n'existent plus dans le paysage actuel puisque l'église a été entièrement détruite en 1807. Napoléon a quand même ordonné quelques fouilles au moment de la démolition. Donc on est entre Saint-Étienne-du-Mont et le lycée Henri IV, pour ceux qui connaissent. On est pile à un endroit qui est important pour la vie parisienne, c'est la rue Clovis. Donc Clovis a été enterré sous la rue Clovis, et y est peut-être encore, parce que les fouilles de 807 ont été menées tambour battant. Les archéologues, enfin, disons les antiquaires plutôt, mandatés par Napoléon Ier, ont trouvé deux très beaux sarcophages qu'ils ont attribués à Clotilde et à Clovis. Ça a suffi à satisfaire l'empereur. Bon, les sarcophages sont aujourd'hui bien datés, ce sont des sarcophages du 7e siècle qui ne peuvent pas appartenir au couple royal. Donc, les archéologues se demandent si Clovis ne dort pas encore quelque part sous la rue Clovis. Et le rêve de Patrick Perrin, que vous allez voir dans quelques semaines si vous continuez de suivre ses programmes de conférences, est de faire un joli trou sous Saint-Étienne-du-Mont pour essayer de retrouver le couple royal. Bon, il faudra détourner une ligne de bus parisienne, et ça, c'est assez difficile. Disons que là, on a quand même un moment fondateur pour Paris, puisque quelque chose s'est produit dans la ville, une sépulture royale et un choix politique d'installation de capitale. En fait, ce n'est pas le choix de Clovis qui va être fondateur, c'est le choix de ses héritiers. Lorsque Clovis meurt en 511, son royaume est partagé et sa mémoire se trouve partagée. Clovis avait été enterré à Paris. Paris, qui n'était que très peu de choses pour lui, va devenir l'enjeu de la mémoire des Mérovingiens. Ce partage, précisons-le tout de suite. En 511, lorsque Clovis meurt, il laisse quatre fils. Chaque fils a un royaume, chaque fils se choisit une capitale. Le fils aîné, le plus dynamique et le plus brillant, ne s'installe pas à Paris. Il s'installe à Reims, qui est sans doute un lieu de pouvoir beaucoup plus important pour Clovis. C'est également un lieu qui permet d'aller mener des campagnes beaucoup plus rentables vers l'Est. Le deuxième fils, Clodomir, s'installe à Orléans, ce qui paraît logique, le lieu du concile de 511, là encore un lieu de pouvoir majeur pour Clovis. Le troisième s'installe à Soissons, ce qui paraît logique, là encore, le lieu du baptême. Et il faut attendre le quatrième, Childebert, pour trouver un roi à Paris. Donc un partage qui ne met pas en avant la ville de Paris, disons-le. Alors pourquoi Paris reste ? Parce qu'on va avoir affaire à une ville mérovingienne qui va être l'enjeu de pouvoir pendant deux siècles et demi. Notre ville mérovingienne, c'est en fait une ville qui est liée au problème de cette grande dynastie de la première race royale, celle qu'on laisse généralement sous la forme d'un arbre généalogique dans les manuels scolaires, en assortissant de remarques généralement cruelles en disant qu'ils sont tous méchants et qu'ils s'entretuent. Ce qui n'est pas faux. Mais disons que cette dynastie mérovingienne a une logique de fonctionnement qui va privilégier la ville de Paris. Ce partage est complexe, c'est vrai, mais ce partage est en fait un partage opérationnel du territoire. Clovis avait eu deux épouses successives. Avec une première épouse, il avait eu Thierry Ier. Avec Clotilde, la princesse catholique, il avait eu ses trois derniers fils. Plutôt que de se risquer à une guerre civile dynastique, les Mérovingiens ont eu la sagesse de partager. En attendant que la biologie ou les poignards fassent leur chose, leur effet, et que certains rois disparaissent de leur belle ou de leur vilaine mort. Mais plutôt que de se risquer à s'entretuer dans une guerre civile, vous avez un partage qui ressemble à un partage romain. C'est ce que font les Romains depuis le IIIe siècle. Les empereurs romains partagent le territoire depuis l'époque de la tétrarchie. Or, si on regarde les types de partage romains, lorsqu'il y a partage, c'est généralement en quatre, et ce partage ne concerne pas la ville de Rome. Les capitales tétrarchiques, c'est Trèves, Milan, Sirmium, Constantinople, Nicomédie, Antioche éventuellement, mais Rome n'est jamais la capitale d'un des empires issus de la décomposition de l'Empire romain. C'est un peu le cas pour Paris. Paris est une ville qui va être un peu hors sol dans les différents partages. Le partage qui se déroule à la mort de Clovis n'interdit pas d'ailleurs les recompositions. Lorsque les différents fils de Clovis meurent, on va pouvoir reconstituer le grand royaume de Clovis, plus les extensions qui ont été opérées. C'est le cas notamment entre 558 et 561. Lorsque de nouveaux Mérovingiens voient le jour, à l'époque des fils et surtout des petits-fils de Clovis, lorsqu'il y a quatre petits-fils, bien on partage à nouveau sans trop de difficultés. C'est le cas en 561. Quel que soit le partage, il faut bien voir que la région de Paris n'est pas forcément le siège de la capitale, mais c'est en fait une région capitale. Il faut voir comment fonctionne ce territoire. C'est un peu complexe pour nous. L'ensemble des petits royaumes mérovingiens forment dans nos textes le royaume des Francs, le Regnum Francorum. Mentalement, le royaume n'est pas partagé. De la même façon qu'il peut y avoir plusieurs empereurs, mais un seul empire romain, il peut y avoir plusieurs rois mérovingiens, mais il n'y a qu'un seul royaume des Francs. En fait, ce royaume se structure avec différentes composantes. Chaque roi a des petits morceaux de royaume, généralement une base arrière très rentable, et puis un front pionnier à défendre, une frontière qu'il protégera contre les barbares et qu'il va étendre. Si on regarde ces partages, voyez par exemple, lors de ce partage, chaque roi a reçu un morceau du bassin parisien. C'est là que se trouve quoi ? La capitale du roi, l'endroit où il se marie, l'endroit où il reçoit les ambassadeurs. C'est là que se trouvent ses palais, les endroits où il réside. C'est là que se trouvent ses grands domaines, ce que l'on appelle le fisc mérovingien, c'est-à-dire les terres de l'État mérovingien se situent là. C'est là également que se trouvent les monastères qui prient pour le roi. Donc dans cette région capitale autour de Paris, vous allez avoir les centres du véritable monde mérovingien. Et puis vous avez une deuxième auréole de la puissance, c'est la zone fiscale, l'endroit où le roi est capable de prélever des impôts, qui est un peu plus loin du bassin parisien. Vous avez une troisième zone, c'est la zone de domination vassalique. La Bavière, la Bretagne, le Pays Basque, c'est un endroit qui n'est pas bien contrôlé par le pouvoir mérovingien, mais le roi de Paris, il nomme le duc. Donc, d'une certaine façon, il en est le maître. Ça ne veut pas dire qu'il va obtenir beaucoup de revenus, mais il contrôle ce territoire. Et puis, au-delà de cette troisième auréole de puissance, vous avez l'Italie du Nord, vous avez le monde slave, vous avez l'Espagne, vous avez le Kent. C'est un endroit où le roi mérovingien va faire du pillage. Tous les ans, le roi mène une guerre pour récolter les produits du sol. Donc ici, vous avez différentes zones d'exploitation. Et vous voyez que Paris se trouve au centre. C'est l'endroit, finalement, où vous avez le plus d'étaticité, si vous voulez. Donc ce monde mérovingien, c'est un gradient de domination. Plus vous êtes au centre, mieux c'est administré. Plus vous êtes loin, plus vous avez du rapport d'homme à homme. Lorsque ces partages se stabilisent à partir de 568, lorsque désormais on va considérer qu'il y a trois royaumes mérovingiens, l'Austrasie, un territoire qui n'a pas encore de nom mais qu'on appellera la Neustrie, et la Burgondie, Paris se situe au centre de ce dispositif. Et les rois d'Austrasie, de Neustrie et de Burgondie possèdent tous un tiers de Paris. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de frontière dans les rues de Paris. C'est simplement un tiers des ressources fiscales de Paris va à chaque roi. Donc vous avez un partage des impôts et un partage également du capital symbolique. Chacun est maître d'un petit bout de Paris. Ce n'est pas la zone la plus partagée. La ville la plus rentable, c'est Marseille. Marseille, on partage en 4, voire en 8. Donc vous voyez des rois se battre parfois pour 1/7 de Marseille. Bon, ils se battent en fait pour des revenus fiscaux. Donc, c'est une affaire de gros sous, Paris, c'est aussi un enjeu mémoriel pour les Mérovingiens. Parce que Clovis et Clotilde y sont enterrés, bon, il faut dire qu'on n'en parle pas trop. Ils ont été enterrés aux Saints Apôtres, et ensuite, c'est presque les seuls à avoir été déposés là. Le fils de Clovis qui reçoit Paris, Childebert Ier, en fait, choisit de ne pas être enterré à côté de son père. C'est un choix particulièrement étonnant, mais il fonde une nouvelle nécropole royale, Saint-Vincent, qui bientôt va s'appeler Saint-Germain-des-Prés. C'est juste en face du palais royal, et désormais, ça sera la nécropole de Childebert et de son entourage. À la génération... Pardon, juste un petit détail. Paris, dans les textes mérovingiens, c'est la ville de Childebert. C'est jamais la ville de Clovis. Pour les Mérovingiens, comme pour tous les hommes jusqu'à l'an 1000, Childebert Ier est beaucoup plus important que Clovis. Pour nous, c'est étrange. Childebert Ier est un roi complètement oublié de l'histoire. Mais pour les gens du Haut Moyen-Âge, c'est le bon roi de la première dynastie, beaucoup plus de Clovis, parce que Childebert était pacifique, généreux, et quelque chose qui est extraordinaire pour les Mérovingiens, chaste. Donc c'est le roi qui aura laissé un bon souvenir. La rue Childebert Ier existe à Paris, mais elle fait la moitié de la rue Clovis. La mémoire est injuste. Childebert Ier a fondé une nécropole, mais son neveu Childéric Ier, qui récupère Paris à la génération suivante, fonde une autre nécropole. Donc visiblement, il n'y a pas encore de stabilité. La nouvelle nécropole, ça sera Saint-Denis, et c'est celle qui est appelée à un nouveau succès. La ville restera ensuite en indivision, et les nécropoles seront parfois utilisées. Est-ce qu'on peut parler de ville capitale ? Alors, la ville capitale, Paris, débute véritablement en 613. 613, un roi réussit à exterminer tous les autres, c'est Clotaire II, et après avoir réunifié l'ensemble du monde mérovingien, installe sa cour à Paris. Donc finalement, ce n'est que sous le règne de Clotaire II et de son fils, beaucoup plus célèbre qu'est le roi Dagobert, que Paris va jouer le rôle de capitale. Prudence, le palais n'est pas à Paris, il est à Clichy. C'est pas très loin aujourd'hui. À l'époque mérovingienne, ça l'est quand même, c'est une demi-journée. Hein. Donc on n'est pas dans la ville de Paris exactement. Cette capitale va servir en fait pour quelques rois, ce qu'on appelle les rois de la branche neustrienne, donc trois générations, éventuellement quatre générations, de Clotaire II jusqu'à Thierry III. Une ville où il ne va pas se passer grand-chose, si ce n'est que les rois de Paris, qui sont en fait les rois de Clichy, vont enrichir un sanctuaire plus que tous les autres. C'est le sanctuaire le plus proche de Clichy. Le palais royal se situe certainement au nord de la ville actuelle de Clichy. C'est la basilique Saint-Denis, qui a quelques centaines de mètres du palais royal mérovingien. Ces rois, pour nous, ils sont intéressants parce que, enfin, ils nous laissent de la documentation. Pas grand-chose, hein, il faut bien l'avouer, mais quelques actes mérovingiens nous sont conservés, essentiellement par les archives de Saint-Denis. Des documents sur papyrus, donc très mal conservés jusqu'aux années 650, et puis après les années 650, enfin sur parchemin. Qu'est-ce qu'on peut voir du premier vrai roi de Paris, qui serait Clotaire II ? Oh ben, pas grand-chose, si ce n'est que les Mérovingiens ne sont pas des incultes comme on a voulu parfois les dépeindre. Nos rois fainéants savent tous lire et écrire, et vous voyez que Clotarius est capable de mettre son nom au bas de l'acte. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien mieux que Charlemagne, qui sera incapable d'écrire la moindre lettre. Vous avez également l'idée que le roi est un roi chrétien. Donc Clotaire II signe Clotarius Rex in Christi nomine, Clotaire, roi au nom du Christ. Et lorsque les Mérovingiens de Paris scellent leurs documents, alors bien sûr ils mettent quelques-uns de leurs précieux cheveux dans la cire des sceaux, mais leurs sceaux sont essentiellement des sceaux chrétiens avec un décor cruciforme qui montre qu'ils sont guidés par la volonté divine. Nos rois de Paris, ce sont souvent des reines, à vrai dire. La dynastie neustrienne a des rois qui ne survivent que rarement à 30 ou 40 ans, et donc il y a beaucoup de régences féminines. Ces reines se font enterrer à Saint-Denis, on a parfois conservé certains de leurs objets, et donc Paris, c'est la ville de Frédégonde, ou c'est la ville de la reine Bathilde, qui toutes deux assurent des régences dans les années respectivement 580 et 650. Des villes de reines qui doivent se battre pour garder le pouvoir. Ce qui explique que, curieusement, Paris aura mauvaise réputation au sein du royaume. Un roi des années 580, le roi Gontran, un roi de Burgondie qui est installé à Châlons, dit qu'il ne veut pas mettre les pieds à Paris parce que c'est une ville qui porte malheur à sa famille. Dès qu'on y va, on se fait assassiner. Bon, l'idée, c'est que c'est un territoire qui n'est pas le lieu où les rois sont le plus sûrs d'eux-mêmes. Hein. Comme la ville est très contestée et que les reines tentent de garder le pouvoir, effectivement, c'est la ville des assassinats royaux. Mais quand on regarde la ville en elle-même, si on sort du palais royal, on a une cité parmi d'autres. Cité parmi d'autres, parmi à peu près 130 cités que compte le royaume, Paris n'est pas administré d'une autre façon. On a Paris qui est composé comme toutes les cités romaines, comme toutes les cités mérovingiennes, c'est la ville plus son territoire. Et à Paris, le roi nomme un comte, c'est-à-dire un haut fonctionnaire, qui est chargé des fonctions de police, de justice, de fiscalité et de levée de l'armée. Et en termes administratifs, on ne peut pas véritablement dire que Paris se distingue du reste du monde. Sauf peut-être par sa richesse. Le point est discuté, archéologues et historiens n'ont pas toujours les mêmes points de vue. Est-ce que Paris est une ville riche à l'échelle du royaume ? Disons que comme le palais n'est pas loin, vous avez une élite administrative, donc il y a les courtisans qui naturellement font des dépenses et doivent dynamiser le commerce. Paris est doté d'une communauté juive, c'est généralement très bon signe pour une ville, donc généralement c'est un signe de richesse que le maintien de cette communauté juive. On a également une communauté syrienne, donc tout ce qu'on appelle syrien au Moyen-Âge, c'est tout ce qui baragouine le grec, on ne veut pas trop savoir ce que c'est, des gens qui viennent d'Orient, bien intégrés, hein. Il y a un syrien qui va devenir évêque de Paris dans les années 580, mais en tout cas il y a une communauté hellénophone à Paris. Et vous avez également une foire qui se développe, pas bien attesté pour le VIe siècle, mais en tout cas au VIIe siècle, un commerce qui semble être tourné vers les îles britanniques, peut-être vers la Scandinavie, mais plutôt du commerce de revente. Sur le plan culturel, là, je n'irai pas aussi loin. Sur le plan culturel, à vrai dire, il ne se passe rien à Paris. à part quelques documents qui sont produits, il y a quelques vites saints qui sont peut-être rédigés dans l'entourage de Saint-Germain, mais vous avez vu que Saint-Germain, pour écrire la vie de Saint-Marcel, il est obligé de faire venir un Italien, ce qui n'est pas bon signe d'une certaine façon. Et puis, il y a un auteur majeur pour le 7e siècle à Paris, c'est Importunus, évêque de Paris, qui est l'auteur d'une série de lettres d'insultes que je vous conseille, parce qu'elles ont été mises en formulaire, c'est les plus belles lettres d'insultes qu'on possède pour le Haut Moyen-Âge. On ne peut quand même pas dire que ça soit le sommet de la culture occidentale. Donc, pas grand-chose qui nous soit conservé, si ce n'est le nombre de fondations d'églises. Donc, Paris apparaît surtout comme une ville d'églises. Aucune autre cité de Gaule ne possède autant d'églises pour le 7e siècle. Ou on ne les connaît pas. Parce que Paris est à la fois la ville où on a le plus de textes, toutes les chartes du palais nous mentionnent les églises, et également l'endroit où il y a eu le plus de fouilles en France. Donc on a beaucoup plus de chances de connaître le patrimoine ecclésiastique à Paris que dans une cité obscure comme Le Mans ou Rennes. Donc méfiance, mais disons que dans l'état actuel de la documentation, on est quand même dans une ville d'église. Alors je terminerai par cela, à savoir le portrait de cette ville chrétienne quand on arrive vers la fin de l'époque mérovingienne, à la fin du 7e siècle. La ville chrétienne, a priori, est dominée par l'évêque. C'est le cas dans toutes les cités des Gaules, c'est le cas aussi à Paris, mais disons c'est un peu moins le cas à Paris qu'ailleurs, dans la mesure où pour le 5e et le début du 6e siècle, on n'a pratiquement aucune documentation sur les évêques de Paris. Le premier évêque de Paris qui nous soit véritablement connu est un évêque qui est démis par le roi Childebert Ier pour concussion et détournement de fonds, ce qui n'est pas une entrée en matière des plus satisfaisantes. Le successeur de cet homme-là est quand même un peu plus prestigieux, Saint-Germain, qui va donner son nom à Saint-Germain-des-Prés, nommé par Childebert Ier, comme tous les évêques du royaume. Le roi nomme tous les évêques de son territoire. Et Saint-Germain va effectivement avoir un épiscopat brillant avec fondation d'un monastère. Ensuite, pas grand monde, jusqu'à un certain Agilbert, qui est connu essentiellement par son sarcophage qui est conservé aujourd'hui, pas à Paris mais à Jouarre, puisque Jouarre est le monastère familial d'Agilbert, et il y est enterré à côté de sa sœur. Agilbert est un évêque qui aura eu une activité, disons, de missionnaire de salon en Grande-Bretagne dans le début de sa vie, et puis qui finit comme évêque de Paris. Quand on sort de ces deux personnages, il faut bien avouer que les autres évêques de Paris ne sont généralement que des noms dans les listes à la fin des conciles. Donc Paris n'a pas réussi à abriter un foyer d'évêques dynamiques, comme ça peut être le cas à Lyon, à Arles ou à Tours à la même époque. Peut-être le palais est-il trop près, tout simplement. Sur le reste de la ville, on a un peu de documentation, des fouilles, parfois très anciennes pour le centre de Paris, ce qui pose quelques problèmes, même si des fouilles ont repris depuis 2 ans, notamment à Saint-Germain-des-Prés. Et puis des chartes, en assez grande quantité, notamment des testaments, parfois des testaments d'individus privés, qui nous donnent des listes d'églises qui existent pour le 6e et pour le 7e siècle. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir dans ces testaments? D'abord que les élites du monde franc ne se concentrent pas sur Paris. Quand vous êtes un très haut personnage du royaume, par exemple l'évêque Bertrand du Mans, qui appartient à la famille mérovingienne, un peu par la jambe, mais enfin, il appartient quand même à la famille mérovingienne, vous voyez que les grands aristocrates sont possessionnés partout, mais que les possessions les plus intéressantes se situent quand même plus à l'ouest, notamment en Aquitaine, parce que l'Aquitaine est encore particulièrement rentable et produit de grandes richesses. Mais il est intéressant d'avoir quelques territoires dans le bassin parisien et éventuellement quelques petites possessions à Paris. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ces possessions? Des églises. Le patrimoine ecclésiastique, on le connaît de mieux en mieux grâce aux travaux des topographies chrétiennes de la Gaule. Les cités de la Gaule sont de mieux en mieux connues, et par l'archéologie et par les textes, qui permettent de voir que ce patrimoine ecclésiastique se concentre, et c'est assez naturel, dans le cœur de la cité. L'île de la cité comprend, depuis l'Antiquité tardive, sûrement depuis le IVe siècle, ce qu'on appelle un groupe épiscopal. Donc c'est le centre de la gestion de la cité qui est contrôlé par l'évêque, avec une cathédrale dédiée à Saint-Étienne, un baptistère, vraisemblablement de forme ronde, qui va laisser son nom dans la toponymie de l'île de la cité, plusieurs, ou une, on ne sait pas trop, églises annexes, et un palais épiscopal, puisqu'on nous dit que Saint-Germain de Paris allait très souvent du palais épiscopal jusqu'au Palais Royal. Bon, le Palais Royal se situant à la pointe aval de l'île de la Cité, il n'avait pas allé bien loin, et vous avez quelqu'un qui pouvait négocier assez facilement avec le roi. À côté de ce centre épiscopal, vous avez des oratoires qui sont fondés par des aristocrates, notamment un oratoire Saint-Martin, attesté dès la fin du VIe siècle, et également des monastères qui commencent à coloniser l'île de la Cité. Saint-Éloi fonde un monastère de femmes dans les années 630 avec le soutien du roi Dagobert. Donc ici, vous avez déjà une île de la Cité, pôle religieux de Paris, qui fonctionne bien à l'époque pléiovergienne. La rive gauche également est une rive qui ressemble à ce que l'on connaît pour d'autres cités des Gaules. Grégoire de Tours, le grand auteur du VIe siècle, appelle ça le Vicus Christianorum, donc le quartier des chrétiens. En fait, le long des anciennes voies romaines se trouvaient les grandes nécropoles de l'Antiquité. Dans les nécropoles se trouvait le corps des martyrs, puis le corps des saints. Et donc, assez naturellement, les églises paléochrétiennes puis mérovingiennes ont été fondées sur ces faubourgs de l'Antiquité et autour des grandes nécropoles. Alors, autour de la tombe de Sainte-Geneviève, qui est enterrée dans une nécropole romaine, on a le quartier qui va se construire autour de cette église, donc le quartier des Saints-Apôtres, va petit à petit prendre le nom de quartier Sainte-Geneviève, c'est la montagne Sainte-Geneviève qui est en train de naître. Vous avez également Saint-Germain-des-Prés, qui est fondé en face du palais royal de l'île de la Cité, vraisemblablement dans l'ancien jardin de Childebert Ier. Childebert Ier, parmi ses nombreuses qualités, est le seul mérovingien de ma connaissance qui aime beaucoup greffer les arbres fruitiers. Donc, il avait son jardin, il n'avait qu'à traverser la Seine, et sa fondation royale est installée à toute proximité de ce jardin. Vous avez également Saint-Julien le Pauvre, qui existe encore aujourd'hui, dont les premières assises sont mérovingiennes. On sait qu'un certain nombre d'évêques vont doter Saint-Julien le Pauvre à travers tout le Moyen-Âge. Plus des basiliques mineures qui sont sans doute des églises contrôlées par l'aristocratie en périphérie. Donc un développement, comme on le voit un peu dans toutes les cités des Gaules, d'un faubourg chrétien centré autour de lieux de culte qui sont richement dotés. Du côté de la rive droite, par contre, là, c'est beaucoup plus clairsemé. Alors que la rive droite était relativement bien peuplée à l'époque romaine classique, le Bas-Empire est passé par là, l'habitat a été en grande partie abandonné. Reste quelques faubourgs qui se constituent autour de Saint-Gervais-Saint-Protée, qui est une fondation peut-être du 5e, mais en tout cas attestée au moins à partir du 6e siècle. Donc une nécropole qui va se transformer en faubourg et qui petit à petit va être un foyer de peuplement et de croissance urbaine. Même chose du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, attestation un peu difficile, il faut bien l'avouer, mais en tout cas à partir du 7e siècle, ça fonctionne et les fouilles archéologiques laissent supposer qu'effectivement vous avez un foyer de peuplement, là encore sur un site de nécropole, qui va se transformer en faubourg. Au-delà, pas grand-chose, du moins dans l'état actuel de notre connaissance, si ce n'est un semis de petites basiliques, mais de petites basiliques qui doivent se trouver dans la campagne. C'est le cas notamment pour Montmartre, puisque l'avis de Saint-Éloi, on est à la toute fin du 7e siècle, est le premier texte à nous évoquer des temples romains en ruine au sommet d'une colline, qu'on appelait le mont de Mercure, et ce mont de Mercure qui s'appelle le mont des martyrs désormais. Donc on aurait les origines de Montmartre, avec une certaine hésitation, dans la mesure où les fouilles archéologiques sont plutôt en contradiction avec les textes, mais disons, il se passe quelque chose à Montmartre dans ces années-là. Pour retrouver des églises, il faut aller beaucoup plus loin. Ensuite, c'est Saint-Denis, et Saint-Denis, on n'est plus du tout dans Paris, on est déjà dans un espace qui est lointain. Donc une ville qui a pu être recomposée, sans doute en bien moins bon état que les belles reconstitutions de Jean-Claude Golvin, qui fait les plus beaux dessins sans doute de patrimoine urbain. Les toitures, je doute qu'elles aient été en belles tuiles régulières comme cela. Mais il faut sans doute imaginer une Paris mérovingienne avec des traces du passé romain. Le forum est encore en place, les thermes de Lutèce sont encore en place, réutilisés. L'amphithéâtre est peut-être encore là. On sait que le roi Chilpéric donne des jeux du cirque à Paris. Donc dans les années 580, il y a les dernières chasses qui se déroulent, peut-être dans les arènes de Lutèce ou ailleurs, on ne sait pas trop. Donc une présence urbaine qui se voit encore, mais une présence urbaine qui est en cours de dégradation progressive. Qu'est-ce qui va rester à l'époque mérovingienne de la Lutèce romaine? Essentiellement la voirie. C'est quand même suffisant pour voir que la ville n'a pas été traumatisée. C'est-à-dire que le cardo, le decumanus, se lie encore dans le patrimoine urbain, et vous arrivez encore à voir ce tracé des routes romaines dans la Paris actuelle. Simplement, ici, ça permet de faire la comparaison avec la situation d'autres villes contemporaines, Londres ou York, dans la province de Britannia, sont des villes totalement dévastées au Ve siècle, où le tracé des rues a été perdu, à tel point qu'on sait qu'à Londres, en 500, il n'y a vraisemblablement aucun habitant. Donc ici, vous avez certes des traumatismes à la fin de l'Antiquité, la période mérovingienne n'est certainement pas parfaite à Paris, mais ici, vous avez quand même une continuité qui s'opère et sur le patrimoine, et sur les traditions, et très certainement sur les hommes. Les grandes familles qui sont en place à Paris au 7e siècle sont des familles qu'on a du mal à faire remonter dans le temps, parce que les gens ont changé de nom. Autant jusqu'à la fin du 6e siècle, il était beau d'avoir des noms romains, et les grandes familles parisiennes avaient tous des noms sénatoriaux, autant au 7e siècle, ces gens-là prennent des noms germaniques. Donc on a du mal à voir la continuité, mais dans la mesure où ces familles occupent toujours les mêmes églises, on a de bonnes raisons de penser que les aristocrates romains tardifs n'ont pas été balayés et que ce sont les premiers parisiens du Moyen-Âge. Pour conclure simplement, disons qu'on a affaire à une ville qui est importante dans les Gaules, mais certainement pas prépondérante, une ville qui devient une capitale de la mémoire tout de suite. C'est-à-dire que Paris n'a été capitale peut-être que pendant 6 mois, à la fin du règne de Clovis. Et tout de suite, c'est une gestion de la mémoire qui s'opère et qui va profiter à Paris, parce que ça a été la capitale unifiée d'un monde mérovingien qui, fondamentalement, est toujours désuni, mais qui rêve d'une unité perdue. C'est un enjeu de pouvoir, oui, parce qu'il y a le palais, parce qu'il y a la richesse, parce qu'il y a le contrôle du prélèvement fiscal. Les documents qu'on a conservés, c'est avant tout des affaires de gros sous. Qui va percevoir l'argent des foires de Saint-Denis? Qui va récupérer l'argent du commerce sur la Seine? À tel point que lorsque les Mérovingiens s'affaiblissent, une famille aristocratique, la famille des Pépins, s'empare du pouvoir. Une des premières conquêtes des Pépins, c'est de prendre le titre de comte de Paris et de réussir à s'emparer du titre de comte de Paris de façon héréditaire. Et puis de l'évêché. L'évêché est contrôlé à partir des années 630 par les Pépins, qui installent un homme ignoble, un des membres de leur famille, un certain Hugues, qui est le plus gros cumulard que je connaisse pour le haut Moyen-Âge, puisqu'il est à la fois évêque de Bayeux, de Rouen, de Paris et abbé de Fontenelle. Tout en ayant une vie parfaitement laïque et un nombre considérable d'enfants. Il n'empêche que la région parisienne est importante, puisque c'est là que Pépin le Bref fait venir le pape. Le pape Étienne II passe l'hiver 753-754 dans la basilique Saint-Denis, et c'est dans la basilique Saint-Denis, au mois de juillet 754, que Pépin le Bref organise un événement qui est appelé à une immense postérité, c'est le premier sacre de l'histoire de France. Donc on a choisi ce lieu de pouvoir mérovingien pour marquer le véritable remplacement dynastique. Certes, le coup d'État a eu lieu 3 ans plus tôt, en 751, mais le coup d'État a été tellement impopulaire que Pépin le Bref, lorsqu'il renverse le dernier Mérovingien, est obligé de redoubler son couronnement et de recommencer ce rituel d'intronisation en 754 en lui donnant une dimension chrétienne qui désormais lui donne une aura indiscutable. On a choisi Saint-Denis, on n'a pas choisi Paris quand même, ce qui montre que Paris est importante, mais moins que ce lieu de pouvoir. Moins important, les Carolingiens désertent Paris. Après le couronnement de Pépin le Bref, Pépin ne passe plus par Paris. Le fils de Pépin le Bref, Charlemagne, ne réside pas à Paris. Et aucun des Carolingiens ne fera de longs séjours dans l'ancienne capitale de Clovis. Ce n'est pas le centre de leur pouvoir. Le centre de leur pouvoir est en Austrasie, dans le monde franc de l'Est. Et leur nouvelle capitale, ce sera Aix-la-Chapelle, bien loin de là. Ville de seconde importance dans l'empire de Charlemagne. Pourquoi est-ce que Paris revient? À nouveau par un hasard. Parce que Eudes, le comte de Paris de 888, profite d'une rupture dynastique pour devenir roi de France. Et à partir de là, l'histoire capétienne débute et l'investissement de Paris permettra de réactiver toute la mémoire mérovingienne. Mais s'il n'y avait pas eu de rupture, Paris était marginalisé au sein du royaume. Tellement marginalisé que si, pour finir, je vous montre les cartes du monde. La première carte du monde que l'on ait conservée est une carte de 750, où on voit, je vous place le nord, le nord est à gauche, le nord c'est du côté du mal, toujours, c'est pour ça que les vikings viennent du nord. Donc, la gauche est maléfique, Paris se trouverait quelque part en Gaule, donc Gallia, Mais alors que Rome, Jérusalem, Alexandrie, Carthage sont signalés, ben, si vous cherchez quelque chose, Paris n'existe pas en 750. Si vous regardez un peu plus tard, à l'époque de Charlemagne, au moment où la grande carte du monde de Béatus est réalisée, ben, y a bien quelque chose. Du côté de la Gaule lugdunaise, vous avez une cité qui semble être sur la Seine, qui pourrait éventuellement être Paris, mais il n'y a pas de nom. Donc peut-être une connaissance de Paris. Pour trouver Paris comme la reine des villes, il faut attendre le XIIIe siècle. Et là, au XIIIe siècle, enfin, vous avez Paris qui est en place, mais on est déjà très avancé dans le monde capétien et donc dans une autre conférence. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette très belle conférence, très dense, très riche, extrêmement structurée. Donc...